Bonjour frères et sœurs, c'est une joie dans le Seigneur d'être avec vous ce matin encore et nous remercions notre Dieu pour la possibilité qu'il nous donne de pouvoir nous retrouver comme cela chaque dimanche par sa grâce. Alors aujourd'hui, nous allons continuer ce parcours de l'évangile de Luc. Aujourd'hui, nous sommes dans l'évangile de Luc, chapitre 11. Nous allons lire les 13 premiers versets. Et dans ce texte, nous allons voir la manière de prier selon Jésus. Nous avons vu la fois dernière, dans les versets 38 à 42, du chapitre 10, que le Seigneur Jésus était donc dans la maison de Marthe, et il a rappelé à Marthe que sa sœur Marie, qui avait fait le choix de s'asseoir à ses pieds pour écouter sa parole, que Marie avait choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alors Marie a fait le choix de laisser ce qu'elle faisait pour prendre le temps d'écouter l'enseignement de son Seigneur. Donc c'est un encouragement pour tous les disciples de Jésus-Christ à prioriser ce moment d'intimité avec son Seigneur par rapport à toute autre activité. Donc à chaque fois que nous prenons le temps d'ouvrir la parole de Dieu jour après jour, c'est comme si nous venons comme Marie nous asseoir à ses pieds pour écouter sa parole. Luc continue son récit, donc de la vie de Jésus, et là il veut souligner une autre chose que tout disciple de Jésus devait faire, c'est la prière. Donc, après avoir entendu donc, le Seigneur prier, ses disciples lui demandent de leur apprendre à prier, de leur enseigner la prière. Enseigne-nous à prier. Et donc, il va répondre à leur demande, et c'est ce que nous allons voir ce matin. Il va leur donner donc ses instructions concernant la manière de prier, pourquoi il faut prier. Et nous allons donc voir ce que notre Seigneur dit dans ce passage. Alors lisons ce texte de Luc chapitre 11 à partir du verset 1. Il est dit que Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain de ce jour, notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. » Il leur dit encore « Si l'un de vous à un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire « Ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Voilà, ainsi là pour la lecture. Donc, Luc commence en précisant, il dit, Jésus priait un jour en un certain lieu. Les disciples ne sont pas restés indifférents à sa manière de prier, puisqu'à peine que le Seigneur ait terminé de prier, il y a l'un des disciples qui lui demande de leur enseigner à prier comme Jean-Baptiste le faisait avec ses disciples. Donc, je souligne que la manière de prier du Seigneur Jésus pousse ses disciples à vouloir prier également, mais à le faire comme le Seigneur Jésus-Christ le fait. Ils ressentent le besoin d'apprendre à prier, d'apprendre à mieux prier. Et s'ils le demandent, c'est parce qu'ils ont vu en Jésus l'homme de prière qui priait constamment et différemment de ce qu'il connaissait. Jésus, un homme de prière, et dans les évangiles, nous le voyons constamment. Jésus priait le matin, il priait le soir, il priait toute la nuit avant de prendre quelques décisions. Par exemple, lorsqu'il devait choisir ses disciples, il a prié toute la nuit avant de nommer les apôtres parmi ses disciples. Après une longue journée, il allait se coucher tard, mais il se levait tôt pour se retrouver dans un lieu désert pour prier. Et malgré la journée longue et difficile, le soir, il aimait prendre ce temps pour se retrouver seul pour prier. Jésus, cet homme de prière, il priait seul avant de commencer son ministère. On sait qu'avant de commencer, il est resté 40 jours, 40 nuits à jeûner, à prier, il nous est dit. Et il aimait pouvoir se recueillir et s'éloigner lorsqu'il y avait la foule qui était toujours là auprès de lui pour l'acclamer, etc. Il aimait se retrouver seul pour prier. Pour son disciple aussi qui a besoin d'être soutenu, comme Pierre, il dit à Pierre, voilà, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Le Seigneur Jésus a prié pour affronter aussi la souffrance de la croix. Lorsqu'il était donc avec ses disciples à Gethsémané, il leur a dit, restez là, et puis il s'est éloigné, et il a prié avec beaucoup d'insistance, comme nous le dit Luc, au point que sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Et le Seigneur Jésus a prié aussi lorsqu'il était sur la croix, lorsqu'il a dit à son Père, « Voilà, je remets mon esprit entre tes mains. » Le Seigneur Jésus priait seul, mais aussi il priait avec ses disciples, avec tous ses disciples, mais aussi avec certains disciples en particulier. Par exemple, lorsqu'il prenait avec lui Pierre, Jacques et Jean, par exemple, pour monter sur la montagne lors de la transfiguration, il les a pris avec lui pour prier. Et après, son visage s'est changé, l'aspect de son visage s'est changé et il y a eu cette rencontre avec Élie, Moïse. Donc le Seigneur Jésus aussi priait en public. Non seulement il aimait prier, il priait seul, il priait aussi avec ses disciples, mais ça lui arrivait aussi de prier en public au moment de son baptême. Alors il priait et puis le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe, il est dit. Lorsque, au chapitre 10, nous avons vu que lorsque les 70 disciples qu'il avait envoyés sont revenus, ils étaient dans la joie de ce que les démons leur étaient soumis. Alors le Seigneur Jésus, tressaillant de joie par le Saint-Esprit, il a loué le Seigneur. Il a loué son Père. Père, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Il a donc loué son Père. Au moment de la résurrection de Lazare aussi, et dans l'évangile de Jean, chapitre 17, voilà, c'est ce qu'on appelle cette prière sacerdotale, lorsqu'il prie pour ses disciples, parce qu'il sait qu'il va les quitter, mais il prie non seulement pour eux, mais il prie pour tous ceux qui croiront en lui par leur parole. Donc le Seigneur Jésus est un homme de prière. Donc les disciples avaient l'habitude, et ils savaient que Jésus priait, et là, il leur demande, il leur dit, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Et je pense que c'est une prière que nous devons formuler. Seigneur, apprends-moi à prier. Apprends-moi à mieux prier. Et là, le Seigneur donne son enseignement. Alors, il dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induit pas en tentation. Donc le Seigneur Jésus va répondre favorablement à la demande de ses disciples, donc en leur indiquant les éléments de la prière selon lui. Et la première des choses qu'il dit, c'est que lorsqu'on prie, on s'adresse à Dieu le Père. Il dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié. Les disciples de Jésus peuvent appeler Dieu Père, car telle est la relation qu'il veut avoir avec ceux qui ont mis leur foi en Jésus, son Fils. Le Seigneur s'adresse à ses disciples, ceux qui croient qu'il est le Messie, celui que Dieu a envoyé pour leur salut. Et il leur dit, vous pouvez dire, vous, lorsque vous priez, vous dites Père. Dieu est notre Père et nous sommes ses enfants, nous qui avons mis notre confiance en lui. Et donc, un peu par anticipation, avant même d'avoir donné sa vie en sacrifice pour le péché, le Seigneur Jésus, qui connaît ses brebis, sait que ceux qui ont mis et qui mettront leur foi en lui seront réconciliés avec Dieu. Ils seront réconciliés avec Dieu, leur Père, et ils recevront son esprit, qui est un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Alors le Seigneur Jésus, là, il leur dit « Dites Père » et après sa résurrection, lorsque il va rencontrer Marie de Magdala, c'est ce qu'il va dire aussi. Il va dire à Marie de Magdala de ne pas le toucher parce qu'il n'est pas encore remonté vers son père. Mais il dit à Marie, « Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon père et votre père, vers mon frère et votre Dieu. » Il dit à Marie, « Va retrouver ceux qui ont mis leur foi en moi, mes disciples, et dis-leur que je monte vers mon Dieu et votre Dieu, mon Père et votre Père. » Et dans Galates chapitre 4, l'apôtre Paul explique que nous avons reçu l'esprit de son Fils par lequel nous crions « Abba Père » et donc nous pouvons appeler Dieu Père parce que nous avons en lui son esprit. Et dans Romains chapitre 8, verset 15 à 16, il dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Et l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, on appelle Dieu Père parce que nous sommes ses enfants. Et pour être ses enfants, il faut croire en Jésus. Il faut recevoir Jésus-Christ dans son cœur comme sauveur et Seigneur pour recevoir son esprit. Et qui fait que nous devenons des enfants de Dieu par adoption. Alors, lorsque nous prions, nous nous adressons à notre Père. Dans la Bible, nous avons d'autres enseignements. Alors là, le Seigneur dit, voilà, vous adressez au Père. Et à la fin de son ministère, il explique à ses disciples qu'ils doivent prier aussi et demander en son nom. Par exemple, dans Jean chapitre 14, il dit « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Pareil au chapitre 15, verset 16, il dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Donc là, c'est un enseignement que le Seigneur donne à ses disciples. Non seulement vous vous adressez à Dieu, qui est votre Père, mais vous le demandez en mon nom, il le dit. Et puis, autre enseignement qui est donné par les apôtres, en complément, c'est que dans Jude, Jude nous dit « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, tout comme l'apôtre Paul qui le dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Donc vous voyez, on s'adresse à Dieu le Père et le Seigneur nous dit de le faire en son nom et nous le faisons par son Esprit. Et c'est comme ça que le Seigneur veut que nous prions. Et l'apôtre Paul ajoute même que le Saint-Esprit intervient en notre faveur dans la prière, car nous ne savons pas toujours ce qu'il faut demander. C'est ce qu'il dit dans Romains chapitre 8, versets 26 à 27. Il dit « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Voilà. Donc, lorsqu'on reçoit, on met sa confiance en Jésus, on reçoit son Esprit, et son Esprit nous aide aussi dans la prière. On s'adresse au Père, au nom de son Fils et par le Saint-Esprit. Et tel est l'enseignement de la parole. Et le Seigneur va donc ajouter, il va dire que donc, lorsque vous priez, vous dites « Père, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. » On prie pour la gloire de Dieu. On prie pour glorifier Dieu. Lorsque nous disons, lorsque son nom est sanctifié, nous glorifions le nom de Dieu. Puisque nous disons que ton nom soit mis à part, que ton nom soit honoré, que ton nom soit adoré. Et c'est le souhait que nous formulons lorsque nous disons que ton nom soit sanctifié. On veut que tous les hommes puissent honorer le nom de Dieu. On veut que tous les hommes puissent adorer Dieu. Alors, cela témoigne aussi de notre désir de l'honorer nous-mêmes dans nos vies. Mais si nous disons que ton nom soit sanctifié et que nous-mêmes nous ne sanctifions pas le nom de Dieu, il y a un problème. Et l'autre chose, quand on lui dit que ton règne vienne, et c'est là ce que le Seigneur nous dit là, c'est que notre volonté, c'est qu'il établisse son règne sur la terre. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il est parti nous préparer une place, il va revenir nous prendre et après nous allons être avec lui et il va revenir pour régner. Est-ce là vraiment le désir de notre cœur que le Seigneur Jésus-Christ revienne? En tout cas, dans notre prière et l'enseignement que donne Jésus, on doit manifester, témoigner de cette volonté que Dieu puisse, que le règne de Dieu puisse venir. Nous prions aussi pour lui faire part de nos besoins, besoin de chaque jour. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien, aussi bien matériel que spirituel. Nous avons besoin de comprendre que nous avons besoin de l'aide de Dieu pour cela et que c'est Dieu qui pourvoit à nos besoins. Et en cela, nous lui montrons que nous dépendons entièrement de lui. Nous reconnaissons que tout vient de Dieu. C'est lui qui pourvoit à nos besoins et qui nous donne la santé pour pouvoir, et la santé et la force pour pouvoir aller travailler. C'est lui qui nous donne les capacités intellectuelles ou manuelles, en tout cas toutes les capacités pour accomplir nos diverses tâches, nous permettant d'avoir à la fin du mois un salaire pour pouvoir acheter ce dont on a besoin. Donc donne-nous notre pain quotidien, c'est reconnaître notre dépendance de Dieu, reconnaître aussi que tout vient de lui. Et l'apôtre Paul, dans Philippiens au chapitre 4, il va parler de sa situation et il va dire que voilà, mon Dieu, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc il dit, il est dans une situation difficile, mais il sait et il confesse que c'est Dieu qui le fortifie. Et après, il remercie l'église de Philippe et il leur dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Donc, non seulement il dit que Dieu le fortifie, mais c'est Dieu aussi qui va pourvoir à vos besoins, comme il a pourvu à mes besoins à travers ce que vous m'avez envoyé. Oui, c'est Dieu qui pourvoit à nos besoins. Et lorsque nous prenons le temps de rendre grâce, de remercier Dieu pour le repas, lorsque nous le remercions pour le toit, lorsque nous le remercions pour le travail, nous reconnaissons que c'est lui qui nous le donne. Et l'autre chose que le Seigneur nous dit, c'est que lorsque nous prions aussi pour obtenir son pardon. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, comme nous pardonnons à quiconque nous offense. Et donc là, frères et sœurs, en demandant à Dieu de nous pardonner, pardonner nos péchés, nous reconnaissons de fait que nous pouvons commettre des péchés. Et bien qu'étant enfant de Dieu, avec en nous son esprit, notre vieille nature pécheresse n'a pas disparu. Et penser que puisqu'on est chrétien, on ne pêche plus, c'est contrairement, ça va à l'encontre de la pensée du Seigneur Jésus-Christ qui nous dit de demander à Dieu de nous pardonner nos péchés si nous ne péchons pas. Et dans ce texte de 1 Jean chapitre 1 verset 5 au chapitre 2, il dit que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Mais là, dans Jean, il souligne aussi que Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Et que si nous voulons être en communion avec Dieu, et qu'il y a un péché qui vient de faire obstacle à cette communion, ce qu'il nous demande, c'est de nous confesser ce péché et de croire que le Seigneur nous l'a pardonné. Et nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste, qui intercède aussi pour nous. Alors, il est important que nous reconnaissions nos péchés, que nous demandions pardon à Dieu et que nous abandonnions le péché. Ce n'est pas de juste pécher et puis de demander pardon et de recommencer. Ce n'est pas ça le but. Mais cela nous montre que, oui, ça peut arriver que nous péchons et que si nous savons que nous avons péché, nous devons le confesser à Dieu. L'autre chose que notre Seigneur nous dit lorsque nous prions, nous lui disons aussi, ne nous induis pas en tentation. Dans la version Semeur, il est dit, garde-nous de céder à la tentation. Ou dans la seconde 21, il dit, ne nous expose pas à la tentation. Donc on sait très bien que Dieu ne nous incite pas à pécher. Ce n'est pas Dieu qui nous incite à pécher. Il ne tente personne. Mais il permet que l'on soit tenté. Il permet que l'on soit éprouvé pour affermir notre foi, pour nous permettre de grandir dans sa connaissance. Et lorsque nous lui disons donc, ne nous induis pas en tentation, c'est aussi lui demander de nous délivrer de toute situation qui pourrait nous pousser ou nous inciter à pécher. Donc on prie Dieu de nous garder de cela parce que nous reconnaissons notre faiblesse, nous reconnaissons que nous, par nous-mêmes nous ne pouvons rien et nous voulons vraiment que Dieu puisse nous accompagner, nous garder. Et là encore, ça montre que nous voulons dépendre pleinement de lui. Demander à Dieu de ne pas nous induire ou nous exposer à la tentation ou à l'épreuve, c'est reconnaître donc cette faiblesse et notre difficulté à résister aussi à la tentation. Alors, dans la Bible, on a plusieurs exemples. Job, certainement, c'était un homme juste et droit, et il a été tenté, il a été éprouvé, et la Bible dit que en tout, il n'a rien fait de mal. Il n'a pas péché, il n'attribue rien d'injuste à Dieu. Et dans ce livre de Job, on voit que Dieu a permis qu'il soit tenté parce qu'il avait encore besoin de grandir dans la connaissance de Dieu. Quand il dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Mais notre Seigneur Jésus lui-même, il a prié d'une certaine façon, ne m'induit pas en tentation quand il prie à Gethsémané, et il demande à Dieu s'il est possible que cette coupe s'éloigne de lui, mais il dit toutefois non pas ce que je veux mais ce que tu veux. Et le Seigneur, le Père n'a pas répondu, je dirais favorablement, parce qu'il fallait qu'il passe par là. Donc nous pouvons demander à Dieu de ne pas nous induire en tentation parce que nous, personne ne veut être de tomber, personne ne veut pécher, personne ne veut être éprouvé, mais Dieu voit que parfois il est nécessaire que nous passions aussi par l'épreuve parce que c'est l'épreuve qui va nous faire grandir. C'est l'épreuve qui va nous faire devenir homme ou femme fait en Jésus-Christ. Et même le Seigneur, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, le dit que dans Hébreux chapitre 2, il dit qu'il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et élever à la perfection, il est dit, par les souffrances, le prince de leur salut, dans Hébreux chapitre 2, verset 10. Donc, l'épreuve, le Seigneur Jésus lui-même a été tenté. Voilà. Et donc, lorsqu'on apprend, lorsqu'on grandit dans la connaissance de Dieu, comme ça a été souligné, plus on va grandir dans la connaissance de Dieu, plus on saura résister à la tentation. Plus on saura voir venir cette tentation et ne pas y succomber. Mais on reconnaît aussi notre faiblesse et on prie Dieu de nous garder. Et lorsqu'on se lève le matin, on remet sa journée entre les mains de Dieu, on lui dit de nous garder de la tentation. Et lorsque nous sommes éprouvés, et lorsque Dieu permet que nous soyons éprouvés, alors nous devons comprendre que s'il le permet, c'est aussi dans un but. Alors, j'aimerais voir avec vous cette comparaison, parce que cette prière qu'on appelle le Notre Père, dans Luc chapitre 11, versets 2 à 4, et cette même prière est dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. Et juste faire quelques remarques par rapport à cela. Comme vous le voyez, il y a une prière qui est beaucoup plus courte que l'autre. Et c'est pour ça que j'ai voulu le montrer. Je pense que si il fallait absolument réciter le Notre Père de Matthieu chapitre 6, systématiquement, Luc l'aurait remis aussi tel quel. Mais Luc a repris, je ne vais pas dire les choses essentielles, mais quelques points de la prière. Et en analysant ces deux choses, je me suis dit, mais Luc nous est en train de nous montrer que la prière, quand on prie, ce n'est pas toujours la même chose. Quand on prie, on n'est pas obligé de toujours répéter la même chose. Et la prière, on peut aller aussi à l'essentiel. on n'est pas obligé de tout étaler. Il faut pouvoir faire dire les choses simplement à Dieu, et Dieu, il entend. Dieu, on peut, selon la situation, dire plus, et dans d'autres situations, dire moins, peut-être pour dire la même chose. Et il n'est pas donc nécessaire de répéter pour que la prière soit agréée par Dieu. Et ce que je note aussi, c'est que la prière est dite dans la langue que l'on connaît et que l'on comprend. Ça peut paraître bizarre, hein, de dire ça, mais il y a des gens qui se trompent au niveau de la prière et qui pensent qu'on peut dire des choses sans même comprendre ce qu'on dit. Et là, l'enseignement de Jésus, c'est que lorsque tu pries, tu dis ce que tu comprends. Tu pries avec ton intelligence. Puisque j'aimerais vraiment avoir le temps de le faire, c'est que lorsque nous prions, nous analysons ce que nous disons et nous voyons que ce que nous disons nous engage devant Dieu. Et si nous nous mettons à dire des choses que nous ne comprenons pas, alors ça n'a pas de sens. Et le Seigneur Jésus, alors on va dans Matthieu chapitre 6, et j'aimerais bien que nous lisions aussi cela. Alors je voulais le montrer aussi parce que on le dit parfois le dimanche, il faut que nous nous apprenions à nous discipliner, que je parlais de Jésus qui prie, la prière en privé, la prière avec un petit groupe, la prière en public. Il faut pouvoir s'adapter en fonction de la situation. Et cet exemple-là nous montre que dans certaines situations, on peut dire peu et dire l'essentiel. Et le Seigneur donne des instructions que j'aimerais que nous lisions ensemble. Matthieu chapitre 6, verset 5. Il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Voilà, donc le Seigneur donne, je ne vais pas faire de commentaires par rapport à cela, mais je pense que nous devons réfléchir par rapport à notre manière de prier. Est-ce que nous prions selon Jésus, comme Jésus l'enseigne? Et j'aimerais terminer avec la deuxième partie du texte, dans les versets 5 à 13, où le Seigneur va utiliser une parabole pour expliquer qu'il faut prier avec persévérance. Voilà, cet homme qui recevait des amis n'avait pas de quoi lui donner à manger, et il va toquer chez son ami pour que son ami puisse le dépanner. Tout ça pour dire demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Il faut prier avec persévérance. Et l'autre chose que j'aimerais souligner dans les versets 11 à 13, quand il dit mais quel est le le père qui donnera une pierre à son fils, il lui demande du pain, etc. Le Seigneur, là, nous montre que lorsqu'on prie, on doit venir avec, à lui avec confiance. Ils doivent demander à Dieu tout en ayant confiance que celui-ci leur donnera en réponse à leur prière ce qui est meilleur. Dieu ne va pas forcément nous donner ce que nous demandons, qui parfois n'est pas selon sa volonté, et donc il ne va pas nous le donner. Mais on peut être sûr qu'il va nous donner ce qui est meilleur. Et parmi les choses, ce qui est meilleur, par excellence, il nous dit, c'est le Saint-Esprit. Et le Seigneur termine comme cela. Le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? C'est ce dont on a tous besoin. Alors, et j'aimerais en dire deux mots par rapport à cela. Vous savez, en Jean chapitre 7, le Seigneur dit que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, et comme dit l'Écriture. Et l'apôtre Jean rajoute, il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, le Seigneur dit un peu par anticipation que si vous demandez à recevoir cet esprit, vous allez le recevoir. Mais il fallait, comme on l'a vu, que ses disciples attendent la venue du Saint-Esprit. Et comme on l'a lu dans ce texte de Actes, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière en attendant la venue du Saint-Esprit. Donc ces disciples qui ont demandé à Jésus de leur enseigner à prier, le Seigneur leur dit, si vous demandez le Saint-Esprit, le Père va vous le donner, mais c'est ce qu'ils ont fait. En attendant la venue du Saint-Esprit, ils étaient ensemble et ils persévéraient dans la prière pendant tout ce temps en attendant la venue du Saint-Esprit. Et pourquoi c'est la chose la plus importante, je disais, parce que c'est la présence du Saint-Esprit qui fait qu'on devienne enfant de Dieu. Et donc, c'est en croyant en Jésus. Et si une personne qui entend que Jésus-Christ a donné sa vie pour elle, que Jésus-Christ est mort à cause de ses péchés, et se met à genoux et demande pardon à Dieu, et dit à Dieu qu'il reçoit, qu'il croit en Jésus, c'est comme s'il priait, « Donne-moi ton esprit, Seigneur !» Et c'est là la chose importante. Si vous demandez, si vous mettez à genoux, si vous confessez vos péchés à Dieu, vous reconnaissez que Jésus-Christ est mort pour vous à cause de vos péchés, alors le Seigneur vous donne son esprit. Et c'est ce qu'il y a de meilleur. Puisque si on n'a pas l'esprit de Dieu, on ne lui appartient pas. Et dans Éphésiens, il est dit que c'est en ayant entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Donc, et là, le Seigneur nous dit, si aujourd'hui vous demandez à Dieu que vous puissiez avoir son esprit, alors il va vous le donner, puisque vous allez reconnaître aussi que vous êtes pécheur et que vous avez besoin de Dieu. Alors, nous n'avons plus besoin de demander à Dieu, pour nous qui l'avons déjà fait, « Seigneur, donne-moi ton esprit. » Parce qu'il est là. Nous l'avons et il demeure en nous éternellement. Donc, le dire, le chanter, c'est faux si on demande à Dieu de nous donner son esprit. Nous l'avons déjà fait, il nous l'a déjà donné. Mais par contre, demander à Dieu qu'il nous remplisse de son esprit, comme il est dit dans Éphésiens 5, verset 18, que nous puissions marcher selon l'esprit, que nous puissions nous laisser conduire par son esprit, que nous n'attristions pas le Saint-Esprit, que son esprit nous remplisse de force, d'amour et de sagesse. C'est une prière qui est selon Dieu. On ne demande pas à avoir le Saint-Esprit, on l'a, mais on demande à Dieu que son esprit puisse nous conduire. Alors, examinons, frères et sœurs, notre vie de prière. Dans cette prière de Jésus, nous voyons qu'il met en premier la gloire de Dieu et après, il met nos demandes personnelles. Très souvent, c'est l'inverse que nous faisons. Dès qu'on prie, « Ah Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. » Et là, le Seigneur nous montre dans cette prière, dans cet enseignement, que nous devons rechercher en premier la gloire de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur disait, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Alors prions, frères et sœurs, comme le Seigneur nous l'a enseigné, avec simplicité, étant conscient que ce que nous demandons à Dieu nous engage aussi envers lui. Si nous disons à Dieu que ton nom soit sanctifié, est-ce que nous-mêmes nous sanctifions le nom de Dieu? Est-ce que nous-mêmes nous l'honorons? Est-ce que nous-mêmes nous le respectons? Est-ce que nous cherchons la gloire de Dieu dans nos vies? Si nous disons que ton règne vienne, que faisons-nous pour cela? Sommes-nous comme ces 70 disciples que le Seigneur avait envoyés pour est-ce que nous faisons comme eux, disant le royaume de Dieu s'est approché de vous? Est-ce que nous témoignons de notre foi aux gens pour qu'ils puissent entendre l'évangile et mettre leur confiance en Jésus? Puisque le royaume de Dieu viendra que aussi à travers cela. Si nous lui disons, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, est-ce réellement le cas? Faisons attention à ce que nous disons à Dieu. Rappelons-nous, frères et sœurs, que le Seigneur Jésus et ses apôtres nous enseignent à prier en nous adressant à Dieu le Père, au nom de son Fils Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre manière de prier selon la Bible. Et si, lorsqu'on prie, on s'adresse à un saint, on s'adresse à un tel ou un tel, mais ce n'est pas la prière qui est selon la Bible. La prière, frères et sœurs, c'est une grâce de Dieu qui nous permet de nous approcher de son trône de grâce, comme il est dit dans Hébreux, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Alors nous pouvons le faire avec confiance. La question pour nous, c'est est-ce comme Marie, nous laissons tout pour venir au pied de notre Seigneur pour écouter sa parole, mais aussi pour lui dire par la prière des paroles d'adoration, des paroles de louange, pour lui faire part de nos besoins et lui demander de nous pardonner de nos péchés. Est-ce que nous prenons le temps de le faire? Ou est-ce que ça passe à la trappe? Est-ce que, comme Marie, nous choisissons la bonne part qui ne nous sera point ôtée? L'étude de la parole, l'écoute de la parole, la méditation, mais aussi la prière. Que le Seigneur nous aide et que son nom soit glorifié. Amen.